fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanche la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août, dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd proche dans la brise? Oh, ne m'éveillez pas trop tôt, rien qu'un instant de belle contour. Le désespoir démobilise, le désespoir démobilise. Il me fait un instant sembler entendre au milieu des blés confusément le bruit des armes. Ni le yé, ni le romarin n'ont gardé le parfum des larmes. J'ai perdu, je ne sais comment, le noir secret de mon tourment. À son tour, l'ombre se demande. Ouais, je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Salut les amis. Un grand bonjour à Pépé, Scarlett, Delphine, Jack, Corinne, Nicole, Jeff et compagnie. Merci de me soutenir et salut tous les amis. Avec un peu d'inquiétude si Fabien prend le jus. On le sait pas assez, mais le technicien est le magicien de la radio et sans lui, zéro voix et pas plus de musique. Alors comme ailleurs, bien sûr, rien ne marche tout seul. Alors c'est parti. C'est Didi, Isabelle et Fabien à la technique. Moseka.
The Cold Song de Klaus Nomi sur les ondes de Radio Escapade. Et vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Ah les amis, le froid arrive enfin. Le climat ne serait donc pas totalement déréglé, bien que novembre ait été incroyablement doux. Sauf que les guerres, un peu oubliées, surgissent partout et que nous les alimentons. Trop contents de vendre nos techniques meurtrières comme si on refusait de penser que la mort va avec ce commerce immonde. Marchands d'armes et gouvernements se mélangent, ce n'est pas du tout rassurant. Après l'Ukraine, la Palestine est ravagée, où cette traînée de poudre et de honte va-t-elle aller ? On dirait que les chefs d'État jouent à un funeste monopoly, tellement certains qu'ils sont, eux, des êtres puissants et à l'abri. Ils se foutent du réchauffement climatique, ils aident la guerre au lieu d'aider les peuples menacés par la montée des eaux, et encore moins d'aider les migrants contraints de quitter leurs îles ou leur pays par danger ou famine. Toujours dû au climat changeant. Mais sur quelle terre sommes-nous ? Nous, ici, sommes encore un peu protégés. Mais il nous faut vite apprendre à accueillir et à partager. Ce que n'imaginent même pas les nantis, les privilégiés, les petits chefs ayant un peu de pouvoir. Le pouvoir serait un joli mot s'il était partagé. Mais le pouvoir a été kidnappé au profit d'un petit jeu électoral déplorable. Où ceux qui se sont présentés pour représenter « les autres », entre guillemets, se sont quelquefois retrouvés élus. Alors là, c'est la gloire. Ils n'ont plus d'autre idée que celle de faire partie d'une élite protégée. Et peu leur importe que les autres ne pensent pas tout à fait comme eux. Heureusement, il y a quelques exceptions, mais pas si nombreuses. Hein. Tout cela est d'une grande tristesse et le régime et les règles électorales devraient changer et obliger à un engagement solidaire et effectif, ce qui est rarement le cas. Voir comme ces élus négligent le boulot pour lequel ils sont royalement payés. Peu d'élus aux réunions, avec bien peu d'investissements personnels. Les lois se votent à très peu, alors qu'ils sont plus de 500 élus. Mais ils oublient de faire leur boulot maintenant qu'ils ont leur salaire. Ce qui fait que Macron, Borne et le 49-3 n'en font qu'à leur tête. Merci pour les représentants du peuple. Où sont-ils ? Ailleurs, certainement, et ivres de la satisfaction personnelle d'être membres de l'État. Mais comme l'obligation de servir le peuple n'est pas surveillée, c'est la débandade et le n'importe quoi qui en aucune façon ne tient compte du peuple, des votants. Tout fout le camp, et c'est pas avec un représentant de commerce international que la France peut être respectée dans le monde. Ni même dans le pays, d'ailleurs. Ce gouvernement hors sol se fout des travailleurs, de l'enseignement, pourtant essentiel, mais aussi des Français, des femmes, qui rament, parce qu'elles sont des femmes, des ouvriers mal payés, des hôpitaux, des maternités qui disparaissent, des écoles méprisées, des enfants qu'ils ignorent, et tous ceux qui souffrent sur la planète, pas seulement chez nous. Mais que signifie « chez nous » sinon le hasard d'être né là, à méditer. Musica.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange. From the poplar trees, pastoral scene of the gallant South. bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter
Billie Holiday avec le titre Strange Fruit sur les ondes de Radio Escapade.
Bon voilà, je m'embarque avec le canard dans la mare pour parler du maire de Bourges qui joue les têtes de pioche. Je vous lis l'article. Sorti à peu près indemne de la folie bétonnière des années 70, la vieille ville de Bourges doit faire face à la furia moderniste du maire, qui s'appelle Yann Galut. Il est divers gauche. À son actif, la récente démolition de la quasi-totalité de l'ancien monastère du Bon Pasteur, qui était un monastère du siècle dernier, mais qui donnait une petite, un côté pittoresque à l'entrée du centre historique. Ces bâtiments de belle qualité sont en train de faire place à un immeuble d'une triste banalité. Et rebelote quelques rues plus loin où la mairie s'apprête à sacrifier un vieil et sympathique îlot des années 1800 pour, dit-elle, ouvrir une perspective sur la cathédrale. Riche idée, sauf que Bourges est l'une des rares villes à avoir conservé une trame urbaine médiévale autour de sa cathédrale. Et cette rareté historique permet aux visiteurs de découvrir le monument au détour d'une rue et au dernier moment, telle une immense surprise. Elle se révèle incompatible avec la création de perspectives ou d'esplanades. Cet homme n'a aucune culture. Le ministre de la Culture s'est bien gardé de réagir à ce coup de fièvre démolisseur. À quoi sert-il ? Saisi au printemps dernier d'une demande de classement du monastère du Bon Pasteur par l'association Sites et Monuments, la ministre Rima Abdul Malak a attendu que la mairie commence à tout raser pour transmettre cette requête aux fins d'examen à la direction régionale des affaires culturelles. Résultat, ça fait des mois qu'il n'y a plus rien à examiner du tout. C'est malin. Autre curiosité, ces destructions sont subventionnées par l'État via son plan Action Cœur de Ville. Deux responsables de ce programme destiné à redynamiser les centres historiques avec leurs vieilles pierres abandonnées assuraient pourtant dans Le Monde que ces patrimoines méritaient qu'un travail de dentelle soit réalisé pour les sortir un par un de leurs vacances avec l'appui de l'État, de ses opérateurs et grâce à un travail de facilitation. Ah, c'est fou comme un coup de bulldozer peut faciliter la tâche. C'est dramatique quand même. Enfin, c'est pas la seule chose qui soit dramatique dans le monde, mais quand même, c'est énervant. Un autre petit papier du canard. Tout chasseur ne sachant pas chasser. Ça, c'est le titre du canard. 6 morts et 78 blessés. C'est le tableau de chasse humain des chasseurs pour la saison 2022-2023. Les 6 morts étaient des adeptes de la gâchette. Parmi les 78 blessés contre 90 l'an dernier, il y a quelques promeneurs. Pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, Même si ce bilan humain n'est pas le pire de ces dernières années, il est évidemment encore trop lourd. Et l'ASPAS, donc c'est l'Association pour la protection des animaux sauvages, voudrait que les agents de l'Office français de la biodiversité, c'est-à-dire la police de l'environnement, aient plus de moyens. Ce sont eux qui contrôlent les chasseurs sur le terrain, normalement. Ils devraient avoir accès d'un clic aux informations concernant les chasseurs qu'ils contrôlent. Son permis de chasse est-il valide ? Suspendu ou retiré ? A-t-il le droit d'acheter ou de détenir une arme ? A-t-il été déjà condamné ? Toutes ces infos figurant dans un fichier national de permis de chasse. Sauf que ce dit fichier n'existe pas. Enfin, n'existe toujours pas. Il aurait dû voir le jour au moment de la création de l'OFB en juillet 2019. Vous vous rendez compte ? Ça fait des années qu'ils chassent sans permis, sans contrôle, sans rien du tout. Mais l'État n'a jamais pris le décret d'application ad hoc. On avait vu que Macron était copain avec ce gros patron des chasseurs, là, je ne sais plus son nom. Fusionner deux fichiers existants, celui des titres permanents du permis de chasse géré par l'OFB et celui de la validation annuelle des permis de chasse piloté par la Fédération nationale des chasseurs, n'est pas très compliqué. Mais la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit accorder l'autorisation d'accéder à un troisième fichier du ministère de l'Intérieur, celui des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Et voilà, l'affaire prend du temps. Alors, saisi par l'ASPAS, le Conseil d'État, le 13 novembre, a fait connaître sa décision. Quand bien même l'élaboration du décret se serait heurtée à certaines difficultés d'ordre juridique et technique, ces difficultés ne sont pas de nature à justifier une abstention qui s'est prolongée au-delà d'un délai raisonnable. Vous parlez, ça fait des années. La Première ministre est donc priée de prendre ce décret dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, à sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Alors peut-être que ça va bouger. Du côté du cabinet d'Elisabeth Borne, on garde le moral. Promis, le super fichier est en cours de conception et un texte réglementaire sera pris avant mai 2024. Pampan. Musica, les chasseurs m'épuisent.
Björk avec le titre Atopos sur les ondes de Radio Escapade. Et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Alors encore un petit message du canard, parce que franchement, ils sont incroyables. Un dévendeur est caché dans le paysage. Vous pouvez comprendre cette phrase ? Monsieur, ce Christophe Béchu était dangereux révolutionnaire. C'est qui ? Le ministre de la Transition écologique. Rien que cette expression, transition écologique, ça sent le gauchiste. Il a signé dans Le Monde une tribune contre le Black Friday. Quoi, ce jour de fête inventé par les Américains ? Moi j'adore les promos, je fais toujours les soldes. Il prétend que cela participe d'un modèle de surconsommation insoutenable pour la planète. Ah, la planète à bon dos. Monsieur, avez-vous vu les 4 spots qu'il a fait passer à la télé ? C'est un scandale. On y voit un dévendeur qui conseille à un client de ne pas acheter un polo bradé 70% moins cher. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète et vos placards, dit-il. Vous vous rendez compte ? Un dévendeur ! Mais si on arrête de vendre et d'acheter, ben c'est la décroissance, la fin de tout. Exactement ce qu'ils lui ont dit. Les organisations patronales, le MEDEF et tous ceux qui luttent chaque jour pour faire tourner l'économie française. Un membre du gouvernement qui se met à prôner la décroissance. Même le ministre Bruno Le Maire ne s'est pas gêné pour dire son fait à son collègue Béchu. Il a affirmé que c'était maladroit et pas très sympa. Et pire, culpabilisant. Et qu'avec ces spots, on se met à dos le petit commerce. Ce Le Maire, j'ai toujours su qu'il avait de l'envergure. Mais Béchu a tenu bon. S'il a concédé que ce spot révélait de la maladresse, il a refusé d'en stopper la diffusion. Et dans sa tribune au Monde, il écrit même « Et j'assume de porter depuis 500 jours au gouvernement une politique d'incitation à une révolution des pratiques de producteurs et des consommateurs vers un usage plus raisonné des ressources de la planète. » Une révolution. Il emploie le mot « révolution ». Mais que fait la police ? Il dit qu'il faut retrouver la sobriété d'antan, se remettre à réparer les appareils au lieu de les jeter. Nos grands-parents n'étaient pas dans la décroissance. Ils avaient un juste rapport aux choses et à leurs valeurs. Retrouvons cette sagesse et cette mesure. Mon grand-père me disait souvent « Monsieur, comment pourrions-nous aller de l'avant en regardant en arrière ?» Juste au moment où le président Macron engueule les patrons et leur dit de se réveiller, de créer de l'emploi, de pousser la croissance vers le haut. Voilà que ce Béchu vante la sobriété. Comme le dit un haut conseiller de l'exécutif dans Le Parisien, voilà qui est incohérent avec notre ligne d'écologie pragmatique. Pragmatique, qu'entendent-ils par là ? Ben ça veut dire que l'écologie, ça doit passer après le reste. Ah, vous me l'ôtez de la bouche. Eh bien voilà comment ça se passe. On sait qu'il faut qu'on freine, mais surtout pas, parce que ça empêcherait de faire de l'argent. Bouh, on s'arrête là hein, avec le canard, les amis. Musica.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, Excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
La complainte du progrès de Boris Vian sur les ondes de Radio Escapade. Et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Eh bien, hier j'ai lu un article qui m'a profondément touchée, qui est l'article d'un comédien, metteur en scène palestinien qui s'appelle Tobazi, Ahmed Tobazi, et qui dit « Ma responsabilité est de montrer ce que vit mon peuple ». Et je vous livre l'article. Après avoir salué la petite salle debout pour l'applaudir, Ahmed Tobazi souhaite ajouter quelque chose. Il dit « Malgré le contexte, je n'ai pas changé un mot de cette pièce, la pièce qu'il présente », déclare-t-il aux yeux perçants rivés sur le public. Déclare-t-il ses yeux perçants rivés sur le public. Parce qu'à travers mon vécu, elle dit la réalité du peuple palestinien. Nous ne parviendrons jamais à la paix sans prendre en compte cette réalité. Et nous le retrouvons le lendemain, volubile et résolu, à l'étage du Théâtre des Célestins à Lyon, qui est un des lieux qui accueille ce festival, qui s'appelle Sens Interdit. Et le comédien et metteur en scène, qui a 39 ans, y a joué seul en scène un Here I Am, récit de à la fois tragique et burlesque de son parcours personnel. Il est né, Tobazi, à Jénine, qui est un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée, sous gestion de l'autorité palestinienne, mais cadenassée par Israël, comme on le sait. Du voisin juif, le jeune palestinien ne connaît que les soldats, les assauts réguliers et destructeurs, l'occupation. Pour moi, les civils israéliens n'existent pas. C'était une enfance de misère à laquelle fait suite une adolescence de violence marquée par la seconde intifada, le bombardement du camp, les bulldozers qui réduisent les maisons en pièces et l'armée israélienne coupant l'accès à l'eau, la nourriture, l'électricité et aux soins. Jénine est l'un des bastions de la lutte armée palestinienne qui multiplie les attentats suicides. Vous voyez, ça date pas d'hier la guerre, hein. L'un de ses cousins meurt en kamikaze, l'un de ses copains succombe à un tir de sniper israélien, tandis que le jeune Ahmed tente de remettre le cerveau de son ami dans son crâne explosé. Alors il saisit les armes à son tour sans en maîtriser l'usage, et l'un des moments les plus désespérément drôles du spectacle est l'anecdote de son premier jet d'explosif durant lequel il lance le briquet au lieu de la bombe. Il est arrêté avant d'avoir pu faire plus de dégâts et incarcéré de 17 à 21 ans au milieu du désert du Negev, dans le sud d'Israël. La lumière dans ce tunnel de noirceur viendra d'un homme qui s'appelle Giuliano Merkamis. C'est un acteur et militant juif arabe israélien qui dirige le Freedom Théâtre, un centre culturel implanté dans le camp de Jénine depuis 2006. Il avait déjà essayé de me dissuader de prendre les armes adolescent, explique Tobazi, mais à ce moment-là, je le considérais comme un traître qui voulait nous détourner de la résistance. Sorti de prison et d'une lourde dépression, il reconsidère la voie artistique et rapidement a l'opportunité de se former en Europe. Alors il obtient l'asile politique et la nationalité norvégienne. D'Oslo, je ne connaissais que ces accords de 93 et vu le résultat, il me devait bien un passeport. Donc il découvre une existence plus légère, goûte à des plaisirs jusque-là étrangers ou interdits, comme marcher sur un trottoir propre, danser sur de la musique, fréquenter des femmes, je m'étais libérée du destin qui s'impose aux jeunes Palestiniens, c'est-à-dire finir martyr, prisonnier ou handicapé. Mais tout s'effondre en 2011, lorsqu'un post Facebook lui apprend que Giuliano Mercamis a été assassiné à la sortie de son théâtre par un militant islamiste. Alors il se sent responsable de poursuivre le travail de son mentor. Une troisième intifada, culturelle cette fois. Et le voilà de retour à Jénine, comme directeur artistique du Freedom Théâtre, du Théâtre de la Liberté. La seule chose qui fait que je suis encore vivant, c'est le théâtre, et je m'en sers pour offrir un autre destin aux Palestiniens. J'aimerais jouer Shakespeare ou Molière, mais ma responsabilité est de montrer au monde ce que vit mon peuple dans l'indifférence générale. Lorsque le 7 octobre, le Hamas lance son attaque meurtrière sur Israël, autour de 1400 morts et 200 otages selon les chiffres israéliens, Ahmed Tobassi et son ingénieur du son sont sur le point de partir en France pour une série de représentations. Il leur faudra 4 jours pour traverser les frontières israéliennes et jordaniennes. Alors qu'Israël a déjà entamé sa réplique militaire, 5000 morts à ce jour selon les autorités locales, les deux Palestiniens arrivent en France le jour où leur premier spectacle doit avoir lieu à Choisy-le-Roi. Mais la mairie LR choisit de le reporter au regard de, la situation internationale actuelle et de l'émotion qui étreint toutes les communautés touchées par les événements en Israël et dans la bande de Gaza en signe d'apaisement et de respect pour toutes les victimes. Alors Tobassi s'estime victime de censure, on a failli mourir pour venir vous présenter notre travail et vous ne voulez pas nous écouter. La municipalité assure qu'il en aurait été de même pour un spectacle israélien. Lui n'y croit pas et accuse « C'est le drapeau israélien que vous avez illuminé sur la tour Eiffel. Si vous aviez du respect pour toutes les victimes, le drapeau palestinien y serait aussi. » Et au Festival international des arts de Bordeaux, puis au Sens interdit de Lyon, il a néanmoins trouvé des équipes et un public particulièrement réceptif pour son message. En France, le comédien se sent pressé de condamner les actes du Hamas avant toute chose. On m'y ramène toujours, comme pour conditionner mon droit à la parole. Ce qu'a fait le Hamas, contre qui nous luttons aussi, est abominable. Pourquoi on les met dans le même sac? Mais pourquoi le peuple palestinien n'a-t-il pas droit à la même compassion? Au camp de Jénine, où se sont réfugiés ses grands-parents en 1953, expulsés de chez eux par les forces israéliennes, qui depuis qu'on leur a donné l'autorisation de venir vivre en Palestine, n'ont fait qu'attaquer les Palestiniens et personne n'a réagi. Moi j'ai honte aussi, hein, parce que personne ne s'est jamais levé la contre. Il raconte que certains conservent les clés des maisons dont ils furent chassés. Ça fait maintenant 70 ans qu'ils n'ont pas revu leurs terres. La responsabilité européenne est immense. Et dans la manière dont l'État d'Israël a été créé et dans le soutien dont il bénéficie actuellement. Après tout cela, nous devons encore vous convaincre de notre humanité. Voilà, la fin de notre conversation porte sur l'avenir si incertain. Tobassi assure être capable de tout oublier et de vivre ensemble avec les Israéliens s'ils sont rendus aux Palestiniens leur maison, leurs droits et leur dignité. Mais il n'y croit guère. A-t-il des enfants? Pourquoi faire? Notre passé, notre présent et notre avenir sont contrôlés. Je ne comprends pas comment les Palestiniens peuvent faire l'amour. Il n'y a plus de place en moi pour l'amour. Voilà, je voulais vous lire ça parce que c'est vrai que les Palestiniens, on les a tellement négligés depuis des années, qu'ils sont maltraités de tous les côtés et que j'en ai honte. Musica, je ne sais pas ce qu'on peut mettre après ça.
Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from star tries its best to make the white pearl shine. Glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
Bibi de Tamino sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Ah, ce morceau est magnifique, hein, absolument. Bon, les amis, pour parler art, cette semaine, je vais parler d'architecture tropicale parce que j'ai trouvé un article passionnant dans un Nouvel Obs assez récent sur une architecture qui est en même temps libératrice. Enfin, pense les pays du Sud, hein, en tout cas. Parce qu'ils ont enfin inventé leur propre style architectural en se libérant du joug colonial qui les a bien écrasés pendant des siècles. Enfin, on peut dire. Et puis c'est beaucoup moins énergivore et beaucoup plus respectueux de la nature. Alors je voulais vous en parler. Eh bien, il y a eu un espace d'expérimentation qui sont des villas exotico-brutalistes, disent-ils. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient dominés par l'architecture coloniale, mais ils s'en sont défaits. Et ils se sont adaptés aux impératifs climatiques particuliers des pays chauds, puisqu'on va tous devenir des pays chauds. Voilà. Et les maisons tropicales de Jean Prouvé, par exemple, qui avaient été réalisées il y a longtemps, d'ailleurs, entre 50 et 51, je crois, s'efforcent de trouver une solution aux contraintes climatiques et de lutter aussi contre la pénurie de logements en Afrique de l'Ouest. Ça date d'un certain temps, mais n'empêche que des gens s'en sont déjà souciés. Il y avait des avant-gardistes, certainement. Et il y a eu beaucoup de modernisme tropical. Par exemple, avec des échanges entre le Congo belge ou le Brésil aussi, des maisons démontables fabriquées à moindre coût avec un portique axial en acier et un revêtement en aluminium, des persiennes modulables, une circulation de l'air qui se fait grâce à une ventilation dans le toit. Enfin, il y a comme ça, par exemple à Brazzaville, il y a 3 maisons tropicales qui ont été érigées et qui sont devenues cultes et bien connues des spécialistes, hein. Ce modernisme tropical émerge d'abord en Amérique latine dans les années 30, à mesure que les pays gagnent leur indépendance et que les grandes villes se développent. Parce que le Brésil est d'ailleurs précurseur en la matière. Il a des architectes comme Costa, Batista, Oscar Niemeyer ou Roberto Burl Marx, Paulo Mendes da Rocha. Enfin, tout ça, tous ces gens ont d'ailleurs été inspirés par Le Corbusier, qui donne un cycle de conférences à Rio en 36 et qui dessine son premier toit papillon. Bravo Le Corbusier, il en a inspiré tellement. Et ainsi, le béton brut le plus rugueux est associé avec une suavité tout exotique, avec des courbes, des lignes qui sont repensées et des rapports à la lumière, à la végétation. Et il a fallu tant d'années pour que ça revienne et qu'on se dise que c'était vraiment des trouvailles et des découvertes extraordinaires et des méthodes formidables. Bon, c'était des grands architectes quand même. Et puis voilà, ils arrivent à créer des jeux d'ombre dans les intérieurs. Ils font des pilotis, des patios paysagers, des brises-soleil. Et puis la tendance se répand dans nombre de pays tropicaux tels que l'Afrique et l'Inde qui se décolonisent et s'urbanisent, donc qui commencent à prendre un peu de personnalité. Et actuellement, il y a une étoile montante en Afrique qui est une Nigérienne qui s'appelle Mariam Camara qui fait parler d'elle beaucoup et qui travaille pas mal. Et en tout cas, qui a travaillé, je crois, à la Biennale d'architecture de Venise, où elle a été remarquée. Et puis, l'Afrique est pour la première fois mise à l'honneur, quand même, parce que c'est comme s'il y avait un Baos africain. Et comment les architectes ghanéens, après l'indépendance de leur pays, se sont affranchis de l'esthétique européenne. Voilà, tout ce continent qui possède un kaléidoscope fascinant d'idées, d'aspirations. Va répondre aux problèmes de notre temps bien mieux que nous, en tout cas d'abord. Et puis pour certains, leur approche est résolument sociétale, ce sont les héritiers d'une culture riche. Ils sont convaincus que l'architecture peut lutter contre les inégalités tout en s'inspirant des constructions tout à fait traditionnelles. Et puis des ressources et des matériaux naturels comme la chaux, l'argile, la terre, la fibre végétale mélangée au béton. La fibre de végétal étant celle des palmiers, d'ailleurs. Voilà, donc c'est une grande révolution qui monte maintenant et visiblement, il vaudrait mieux s'inspirer des architectes africains ou sud-américains pour essayer de survivre au réchauffement climatique. Voilà, il paraît qu'il y a une mission qui fait que quelqu'un doit informer et évaluer Paris à 50 degrés. Et donc, on veut se pencher sur l'adaptation à la capitale des futures canicules. Et il est clair qu'il va falloir aller chercher des solutions du côté du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient ou de l'Afrique pour s'en sortir. Et tant mieux. Bon, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci mille fois, Fabien, de m'avoir accompagné. Et à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao.
Adios. Adios. Adios to your afternoon. Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios. Adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. Cause the vision is mine. That vision is mine. Adios. Yes, goodbye. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. After all, I should have no regrets, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision was mine. That decision was mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision was hard. That decision was hard. But the vision is mine. That vision is mine.
And I'm going down Silver Street taking the train. I know very well, and angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know, she left. And I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes, excuse me to take your time, but it goes something like this. Lest the tree cease breathing, lest the bee cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. That decision is mine, the lesson be mine.